Thank you for giving Qatar a chance. And we will not let you down. You will be proud of us. You will be proud of the Middle East. And I promise you this.
La consécration est planétaire. Mais ce moment de grâce ne dure pas. Deux semaines plus tard commence le printemps arabe. Et très vite, le vent de révolte qui secoue tout le Moyen-Orient sert à régler des comptes entre monarchies du Golfe.
Lorsque le printemps arabe a démarré au début des années 2010, le Qatar sortait d'une décennie de victoire. Dans les années 2000, tout leur avait souri. En termes d'influence, de soft power, voire de pouvoir au sens strict, tout semblait possible avec la puissance financière et les réseaux dont ils disposaient. Et puis il y a aussi une part d'arrogance, de penser que quoi qu'ils entreprennent, ils vont l'accomplir, le réussir.
Fin décembre 2010, la rue tunisienne réclame la chute de Ben Ali, le dictateur au pouvoir. Dans les semaines qui suivent, le mouvement de révolte se propage de la Tunisie à l'Égypte, la Libye, la Syrie, le Yémen. Et même le petit royaume voisin du Qatar, le Bahreïn, se soulève. Pendant quelques jours, la monarchie qatarienne, elle aussi, retient son souffle. Par prudence, les autorités relèvent les salaires des fonctionnaires. Comme le pays interdit toute forme d'opposition politique, personne ne sait ce qui peut se passer.
J'étais ici pendant le printemps arabe et je me souviens qu'on regardait tous les jours Al Jazeera pour voir ce qui allait se passer à Tunis ou au Caire. La grande question était, y aura-t-il des manifestations ici aussi? Je me rappelle d'une page Facebook qui annonçait une manif. À l'époque, on avait l'impression que les protestations allaient se répandre partout dans la région. Avec un ami, on s'est rendu sur les lieux de la potentielle manifestation. Il n'y avait personne.
La première raison, c'est le niveau de redistribution des richesses. On a des richesses colossales pour 300 000 Qatariens. 300 000 Qatariens qui ont les troisièmes réserves de gaz du monde, quoi. Donc, l'argent coule à flot, les Qatariens ont ce qu'ils veulent.
C'est évidemment plus facile d'être l'émir du Qatar et de n'avoir que 300 000 citoyens à écouter que d'être, par exemple, le président des États-Unis face à 350 millions de personnes.
Rassuré en interne et convaincu d'être une monarchie éclairée, la famille royale saisit cette occasion pour bousculer les régimes autoritaires du monde arabe. D'autant plus que ces dictateurs au pouvoir depuis des décennies, en Libye, en Égypte ou en Syrie, regardent de haut l'émir Hamad Al-Thani, ce nouveau riche qui veut se faire une place dans le grand jeu diplomatique. Le Qatar veut être dans le sens de l'histoire et il fait le pari de soutenir les frères musulmans. Ce mouvement islamiste, conservateur mais non violent, est le parti politique le plus organisé au Moyen-Orient, le plus à même de remporter des élections dans la région. Pour l'appuyer, le Qatar dispose d'une force de frappe médiatique sans égale. À la fin des années 90, l'émirat a créé la première chaîne d'information pan-arabe sur le modèle de CNN ou de la BBC.
Ça a révolutionné l'ensemble de la scène médiatique du monde arabe. Avant Al Jazeera, les seules informations disponibles étaient les annonces officielles. Qui le roi a-t-il reçu? Qui le roi a-t-il salué? Al Jazeera donne la parole à des islamistes, mais aussi à des laïcs ou à des socialistes.
C'est un outil de soft power et d'influence pour le Qatar.
Officiellement, le palais ne donne pas de ligne éditoriale, mais tous les journalistes d'Al Jazeera la connaissent.
Ils appellent cela de l'autocensure, mais en réalité, c'est de la censure. Aucune critique de la famille royale ou des événements au Qatar, mais carte blanche pour ce qui se passe à l'étranger.
Al Jazeera a joué un rôle clé en couvrant les événements sur le terrain, ce que des médias officiels n'auraient peut-être pas fait.
Al Jazeera a été perçu comme une menace. Et par extension, les opinions politiques du gouvernement qatarien sont également devenues une menace.
Ils ont naïvement cru qu'en soutenant les révolutionnaires, ils soutenaient les peuples et la démocratisation de la région. Sans penser aux nombreuses lignes de fracture qui ont alors émergé, des divisions sectaires, ethniques, religieuses.
Dans les années 2011-2012, le Qatar est perçu comme un appui des forces révolutionnaires, celles qui ont le vent en poupe, alors que l'Arabie Saoudite, elle, soutient la contre-révolution.
Face au Qatar, l'Arabie Saoudite et ses alliés soutiennent le retour des militaires partout où c'est possible. L'Égypte devient rapidement le terrain d'affrontement principal. En 2012, Mohamed Morsi, un frère musulman soutenu par le Qatar, remporte les premières élections libres. Un an plus tard, l'armée égyptienne, financée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, reprend le pouvoir par un coup d'État. L'Occident, effrayé par la montée de l'islamisme, laisse faire. Le Qatar se retrouve alors totalement isolé sur la scène internationale.
Face aux contre-révolutionnaires, en voyant comment les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite étaient revenus en arrière sur des progrès acquis pendant le printemps arabe et qu'ils n'avaient pas les moyens de s'y opposer, les Qatariens ont pris conscience, nous sommes à l'été 2013, que leur politique pour les printemps arabes est en train d'échouer, voire a échoué.
Entre 2011 et 2013, les révolutions syriennes et libyennes virent à la guerre civile. Dans ces pays, le Qatar perd le contrôle de mouvements qu'il a financés et armés, des groupes islamistes qui se radicalisent au fil des affrontements. Cet épisode vient alimenter les accusations de financement du terrorisme. Et cet argument sera employé pendant des années contre la famille Al-Thani.
Au cours des 30 dernières années, que ce soit en termes de soft power ou de pouvoir réel, de relations internationales, de diplomatie du sport, dans tous les domaines, le seul échec cuisant que le Qatar ait eu à encaisser, ça a été le printemps arabe.
Ces tensions internationales ont-elles aggravé les problèmes de diabète de l'émir ? Ou la maladie sert-elle de prétexte pour une sortie honorable ? Toujours est-il que le 25 juin 2013, Ahmad abdique en faveur de Tamim, son quatrième fils, sur les 24 enfants qu'il a eus de ses trois épouses.
Mon père est arrivé au pouvoir de manière atypique et a quitté le pouvoir de manière atypique. Je pense qu'il s'était fixé des objectifs et qu'une fois ceux-ci atteints, il était content de passer le relais à la génération suivante, à mon frère. C'était vraiment une décision étonnante, car dans cette partie du monde, le pouvoir se transmet en général à la mort de l'émir. Avec son fils, ils ont voulu donner au Qatar un nouveau départ.
Je pense que Tamim est arrivé au pouvoir en 2013 pour changer les politiques du Qatar, entamer un nouveau chapitre après le printemps arabe, redéfinir les priorités et l'identité même du Qatar.
Tamim n'était pas le premier dans l'ordre de succession. Mais il sort diplômé de la même académie militaire que son père et il a fait ses classes avec succès dans la diplomatie sportive du Qatar, notamment l'achat du Paris Saint-Germain. Avec son sourire de gendre idéal, sa maîtrise des langues étrangères et son épais carnet de chèques, il séduit très vite ses partenaires occidentaux.
Il est devenu émir au début de la trentaine. Du jour au lendemain, c'était le plus jeune chef d'État du Moyen-Orient et probablement l'un des plus jeunes au monde.
C'est la première fois que je m'exprime devant autant de personnes en français. Alors si vous ne comprenez pas qu'est-ce que je dis, remercie, faire semblant s'il te plaît.
Marcher dans les pas de Cheikh Ahmad n'était pas facile. Tamim pense un peu comme un militaire. Il a le sens du devoir, il travaille dur.
Lorsque Cheikh Tamim a pris le pouvoir, tout le monde le décrivait comme un technocrate. Son premier discours se focalisait sur les questions internes.
وقطر دولة متطورة ذات مرافق ومؤسسات حديثة يبلغ فيها معدل الدخل الفرد على أعلى المستويات في العالم غادر سموه منصبه وقطر أشبه ما تكون بورشة بناء لا تتوقف عن العمل.
Sa première mission, faire de la Coupe du Monde un succès. La capitale est alors un immense chantier qui vit au rythme de la folie des grandeurs. Aux portes de Doha, des villes nouvelles sortent de terre pour accueillir les équipes et les supporters. Le royaume a investi 200 milliards d'euros. C'est 150 fois plus que pour les Coupes du Monde en France ou en Allemagne. 6 stades flambant neufs sont inaugurés, comme cet immense stand bédouin qui peut accueillir 60 000 spectateurs. Des infrastructures d'entraînement jusqu'aux vestiaires, en passant par les loges VIP, tout a été fait pour impressionner les visiteurs étrangers.
Six, 3000 salons, c'est énorme. C'est magnifique.
Dans ce pays désertique, de l'eau de mer est désalinisée pour arroser les pelouses. Et les ingénieurs installent des lampes artificielles pour obtenir un gazon absolument parfait. Au départ, la compétition devait se jouer au début de l'été, quand les températures dépassent les 50 degrés. Les stades ont donc dû être équipés d'un système de climatisation, du jamais vu dans des enceintes à ciel ouvert.
La climatisation pour les joueurs et les terrains part d'ici. L'air est envoyé jusqu'à la ligne de touche. Par contre, pour les spectateurs, l'air frais se diffuse depuis les tribunes. Venez, je vais vous montrer. Sous chaque siège, il y a une petite boîte comme celle-ci qui rafraîchit juste un petit peu. Et même en cas de tempête de sable, ici on est comme dans une bulle isolée. Et si les températures atteignent 50 degrés dehors, à l'intérieur du stade, on reste à 20-22.
Devant l'absurdité écologique, mais aussi les risques pour la santé des joueurs et des supporters, la FIFA a finalement déplacé le tournoi au début de l'hiver. Depuis l'attribution de la compétition au Qatar, les températures infernales de la saison chaude alimentent les polémiques. Les images de ces travailleurs en plein soleil pendant des heures ont fait le tour du monde. Pour obtenir des réformes, les organisations de défense des droits de l'homme, et même quelques footballeurs, menacent depuis des années d'appeler au boycott. La réponse de l'Émirat à ces critiques est d'organiser des visites pour les journalistes dans quelques camps modèles.
Selon moi, c'est le meilleur camp de tout le Qatar. En termes d'emplacement, d'entretien, tout. Je suis très heureux et satisfait de la gestion. Ici, nous avons les toilettes.
Et vous payez un loyer ?
Non, tout est pris en charge par l'entreprise. Le logement, la nourriture, le transport, la lessive, tout.
Pour faire taire les accusations de mauvais traitement, les autorités vont même jusqu'à construire un mur de la gratitude. Cette mosaïque est composée des photos de chaque employé qui a participé à la construction du stade de la finale.
Alors il y a tous les métiers, hein. Ça va des menuisiers aux maçons, en passant par les ingénieurs, etc. etc. Évidemment, quand on connaît les polémiques qui entourent la construction des stades de la Coupe du Monde, ce mur de la gratitude, il sonne un peu faux. C'est vrai que c'est un peu bizarre, parce que quand vous arrivez devant le stade et que vous voyez ces visages, la première question que vous vous posez, c'est est-ce que c'est le nombre de personnes qui sont mortes sur le chantier.
Depuis 2010, Une guerre des chiffres fait rage entre le gouvernement et les ONG internationales. Dans cette monarchie, le droit de grève et les syndicats n'existent pas. Pendant cette décennie de grands travaux, aucun organisme indépendant n'a pu défendre les droits des travailleurs, ni comptabiliser les décès. Les seuls chiffres disponibles sont ceux des autorités qatariennes, de leur agence de statistiques et du comité d'organisation de la Coupe du Monde.
Je travaille pour Amnesty International sur le Golfe depuis 10 ans. Je me suis rendu au Qatar un nombre incalculable de fois. Le Qatar publie des données et selon leurs chiffres, il y a plus de 15 000 étrangers qui sont morts ces 10 dernières années. Mais ils sont morts de toutes sortes de causes. Les données disponibles ne donnent pas la cause réelle. Il y a un grand nombre de travailleurs migrants relativement jeunes et en bonne santé qui ont passé leurs tests médicaux dans leur pays d'origine. Mais quand ils arrivent au Qatar, ils meurent soudainement pour des raisons inconnues et sur le certificat de décès, tout ce qui est marqué, c'est mort naturelle, arrêt cardiaque ou arrêt respiratoire, ce qui, pour les experts de la santé que nous avons consultés, n'est pas une cause de mortalité.
Fatma Al-Nouaimi est la porte-parole des autorités qatariennes pour tout ce qui concerne la Coupe du Monde.
Vous cadrez comme ça ou plus bas ?
Ce ne sont pas que des ouvriers. Je veux dire que ces chiffres incluent toutes sortes de professions et de catégories d'âge. Il y a des enfants, il y a des médecins, il y a des enseignants. Donc si vous prenez ce chiffre sur une période de 10 ans, il est sorti de son contexte.
Fatma et ses équipes ne comptabilisent que les morts sur les chantiers des stades directement supervisés par le comité d'organisation. Au plus fort des travaux, cela ne représentait que de 1 à 2% des ouvriers de la construction.
À propos des victimes que nous avons eues sur nos projets, malheureusement, nous regrettons 3 décès dus à des accidents du travail.
That is work related.
Et aussi 36.
36.
Pardon, c'est 36 ou 37. Mais ce n'est pas lié au travail.
Ça veut dire quoi, non lié au travail ?
Non lié au travail, cela signifie que ces gens sont peut-être morts chez eux ou dans la rue. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sur leur lieu de travail, sur le chantier. Cela peut être une mort naturelle.
Mais une fois de plus, si vous étudiez ces décès, plus de la moitié sont des jeunes hommes morts d'un arrêt cardiaque ou d'insuffisance respiratoire, ce qui n'est pas une cause de mortalité en soi. Il y a forcément une autre raison derrière ces morts.
Insolation, déshydratation ou épuisement, beaucoup d'hommes dans la force de l'âge meurent d'arrêt cardiaque dans leur sommeil. Leur nombre ne sera jamais connu. Peut-être 37 pour les stades, sans doute des milliers à l'échelle de tous les chantiers du Qatar. Pour découvrir les conditions de vie de ces petites mains, il faut s'éloigner du centre de Doha à la nuit tombée. C'est dans ces bâtiments construits aux portes du désert que vivent la plupart des travailleurs étrangers. Eux ne sont pas employés par le comité d'organisation de la Coupe du Monde, mais dans des entreprises privées sur la construction d'autoroutes, d'hôtels ou de centres commerciaux. Et tous connaissent des histoires de collègues tombés sur les chantiers. Ce Népalais a accepté de témoigner à visage découvert, à condition de ne pas donner son nom, ni celui de son employeur. Son histoire illustre la vie de centaines de milliers de forces anonymes.
Je travaille comme peintre, avec un salaire mensuel de 400-450 euros. Les ouvriers qui travaillent en plein soleil s'évanouissent parfois à cause de la chaleur. Quand ils travaillent en extérieur, ce n'est pas facile de s'hydrater. Et sur les échafaudages, le risque, c'est que si ton cerveau cesse de fonctionner en raison de la température, Tu glisses, tu tombes et tu peux mourir.
Au Népal,
je ne peux pas gagner autant. Mon salaire ne suffit pas. Ici, j'épargne 250 euros par mois. Ça me permet d'envoyer mes enfants à l'école. C'est ici qu'on habite. On dépose nos chaussures et nos vêtements à l'entrée. Et là, c'est la cuisine où on prépare nos repas. On a un peu de poulet et quelques légumes, mais c'est bien vide. Oui, c'est sale, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? On est à 8, 10 par chambre. Nos salaires ne sont pas élevés. On s'en sort comme on peut.
Dans cet appartement sans climatisation, une quarantaine d'hommes s'entassent et se partagent le loyer.
Voilà, c'est ma chambre. Là, on est 6 à s'entasser dans cette petite pièce. Et le loyer est cher. On paie chacun entre 75 et 100 euros pour le logement et la nourriture. Donc environ 750.